Il peut y avoir, dans une certaine idée du bonheur, un genre de contentement béat qui frise la paresse ou l'indolence. Ou qui l'excuse peut-être. Sous prétexte d'être heureux, on n'en fiche pas une. Le bonheur dont Jésus parle dans notre texte d'aujourd'hui, des béatitudes, est tout autre. Et ce bonheur-là, c'est tout sauf l'indolence, la paresse. C'est du courage, c'est de l'enthousiasme, c'est de la joie d'agir, c'est de l'énergie. Je vous propose de lire dans le 5e chapitre de l'évangile de Matthieu, les béatitudes, donc la version de Matthieu, puisqu'il y a une version de Luc aussi. D'ailleurs, dans le même chapitre 6 du livre, dans le chapitre 6 du livre de Luc, et là c'est le chapitre 5, pardon, oui, de Matthieu. Matthieu 5, 2 à 12. Je le lis dans la Nouvelle Bible Second. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le parallèle de l'évangile, fin de la lecture au verset 12, le parallèle de l'évangile de Luc est un petit peu différent, ce qui fait se questionner les biblistes sur les sources, la source de cette partie de discours de Jésus. Alors peut-être que tant Matthieu que Luc ont fait un travail de rédaction à partir de ce que Jésus a dit, mais peut-être une chose ici, l'autre là. En tout cas, nous avons affaire à, je propose de rester à Matthieu, à un texte magnifique, très travaillé. Vous avez remarqué d'ailleurs que la première des béatitudes et la dernière ont la même récompense. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le genre des béatitudes, ce qu'on appelle les béatitudes, c'est-à-dire, ça vient du latin, ça veut dire les heureusitudes, en quelque sorte, n'est pas inventé par Jésus. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons lu un psaume qui commençait par une béatitude. Et il y en a bien d'autres. Moi, j'avais retenu le psaume 32, par exemple, mais il y en a bien d'autres. Tu as cité le premier, je crois. Alors, le psaume 32, puisque je l'ai noté dans mes notes, je vais le lire. « Heureux celui dont les fautes sont pardonnées, dont le péché est couvert. » Et alors, Jésus n'a pas inventé les béatitudes, mais il les a, comment dire, assaisonnées. Il les a mises à son style. Il les a éclairées de sa divinité. Jésus ne dit pas qu'on est heureux parce qu'on est pauvre. Il dit « Heureux, vous les pauvres, car ou parce que le royaume des cieux est à vous. » Et c'est ça qui est la source du bonheur. Si vous rencontrez quelqu'un qui est heureux d'être pauvre, si vous rencontrez quelqu'un qui est heureux, je prends la deuxième béatitude, d'être affligé, il faut me le présenter. Quand même quelqu'un d'un peu bizarre. Moi, je ne suis pas pauvre d'être affligé. Quand je pleure, je suis triste, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux d'être pauvre, je ne suis pas heureux d'être affligé, pardon. Quand je pleure, quand j'ai mal, quand je suis inquiet, je suis inquiet, je ne suis pas heureux de l'être. Pourquoi Jésus dit-il cela? Parce qu'il y a le « parce que » qui vient après. Pas l'oublier, ce parce que. Il est fondamental dans l'enseignement de Jésus. Heureux quand on est pauvre. Heureux quand on pleure. Heureux quand on a faim et soif de justice, parce que nous serons consolés. Le royaume des cieux est à nous et nous hériterons la terre. Je vous recommande la lecture du. Alors j'ai amené. Alors moi dans mes bouquins, c'est une vieille version hein, d'un livre de Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien allemand, qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle Le prix de la grâce sur le sermon sur la montagne dans son ensemble. Et j'ai lu avec profit son développement sur les béatitudes. Je vous le recommande vivement. Le bonheur, selon Jésus, relève à la fois d'un choix et de la grâce de Dieu. Je dis souvent à moi-même d'ailleurs, peut-être pour m'y aider, le bonheur est un choix. Le bonheur, si on veut qu'il soit là, vraiment, même capable d'affronter les moments difficiles, le bonheur est un choix. Et quand Jésus dit, heureux vous qui, ceci et cela, il nous propose d'être heureux de ce bonheur qu'il donne. Et puis le bonheur est une grâce de Dieu parce que nous chrétiens, nous sommes, je pense, bien placés pour le savoir, que Dieu nous donne ce bonheur, que Dieu nous fait grâce, que Dieu nous donne la paix, que Dieu fait une œuvre de régénération, de lumière, de pardon dans notre vie. Et donc le bonheur, c'est aussi un effet de la grâce qu'il nous fait. Je vous propose de reprendre les trois ou quatre. Alors voilà, ça commence bien. Trois ou quatre, me voilà indécis. Sur la quatrième, vais-je la mettre dans une première partie, un premier groupe de béatitudes, ou dans le deuxième? Ben, voilà, c'est pour ça que je dis trois ou quatre, parce que je ne sais pas vraiment. J'ai une petite idée quand même de la mettre plutôt dans le premier, donc pour ça que je la cite maintenant, mais je concéderai qu'on peut aussi la mettre dans le deuxième groupe. Alors, oui, je vous propose un premier groupe de béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, et c'est là où j'interroge, car ils seront rassasiés. Les pauvres. Première béatitude. Pauvres de richesse, pauvres de possession, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont aucun mérite à faire valoir, aucun moyen de briller. En société, ceux qui sont transparents, les invisibles, les méprisés, les comptés pour rien, les pauvres. Le terme en esprit signifie qu'il s'agit on pourrait traduire, les traducteurs d'ailleurs souffrent avec cette traduction. Alors c'est pas pauvre d'esprit, hein, ça on le sait tous. Enfin, j'espère, sauf peut-être les pauvres d'esprit eux-mêmes, qui ne savent pas. Mais le terme veut dire ceux qui sont profondément pauvres, qui ont un sentiment de pauvreté, qui se savent pauvres, qui se sentent démunis. Donc, c'est des sentiments qu'on a tous, je pense, à un moment ou à un autre. Les affligés. Les affligés, c'est ceux qui pleurent. D'ailleurs, certaines traductions ont ceux qui pleurent. Celles et ceux dont les émotions sont au sombre. Je recommande à ce sujet l'article du lien fraternel de ce mois-ci. Il y a quelques exemplaires qui sont disponibles à l'entrée, qui parlent des émotions, hein, au cœur des émotions. Nous en avons des émotions qui font couler nos larmes, qui nous mettent une boule au ventre, qui nous rendent malades parfois. Nous en avons des émotions. Et ces émotions, Jésus les cite là. Quand elles sont mauvaises, il dit « Heureux ceux qui pleurent ». Car ils vont être consolés. Pleurer sur nos situations, pleurer sur nos faiblesses, pleurer sur nos incapacités, pleurer sur nos douleurs, nos souffrances, quand on n'a pas le moral, etc. Voilà, Jésus s'adresse à des gens très humains, hein. Les pauvres, bon, quand on se sent démunis, incapables. Quand on a des sentiments un petit peu à la cave, et à ces pauvres, à ces affligés, Jésus dit, attendez, pas si vite, ne restez pas au fond du trou, ne concluez pas trop vite, parce que vous les pauvres, eh ben, vous aurez le royaume des cieux. Vous les affligés, eh ben, vous allez être consolés. Ah là, le regard s'éclaire. Et puis Jésus continue, vous les doux, vous hériterez la terre. Alors les doux, troisième famille des gens à qui Jésus s'adresse, les doux, ceux qui n'opposent pas la force contre la contrariété, ceux qui se laissent faire parfois, victimes d'injustice, qui n'usent pas de violence pour défendre leurs droits, les doux qui le sont à leurs dépens. Dans le contexte, c'est me semble assez clair que la douceur ici peut être synonyme de gens qui sont facilement victimes de l'injustice, de la violence des autres. Et ceux-là, qui ont peut-être mal, du mal qu'on leur fait, injustement, dont on profite de leur douceur, de l'humilité de leur position, ceux-là crient leur douleur à Dieu et Dieu leur dit, eh ben vous hériterez la terre. Et voilà. Alors, ensuite, il y a ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Je les range dans le premier groupe, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la difficulté, parce que Luc, dans le parallèle, dit heureux ceux qui ont faim. Là, il s'agit d'un besoin physique. Ici, je pense que c'est aussi un besoin physique. Au sens où, quand j'ai faim et soif de justice, ça veut dire qu'on ne me fait pas justice. C'est un peu le même registre que les doux. Je souffre, j'ai faim et soif qu'on me rende justice, qu'on ne spolie pas mes biens, qu'on me laisse gagner ma vie. Quand il y a en pays de persécution des chrétiens qui perdent leur travail parce qu'on les en prive du fait de leur foi, eux ont faim et soif de justice, au sens propre comme au sens figuré. Faim et soif tout court, ils ont parce qu'ils ont perdu leur travail. Faim et soif de justice parce que ce qu'on leur a fait est profondément injuste. Faim et soif de justice quand on est sous la pression d'un pouvoir hostile. C'est un peu comme ceux qui sont pauvres. Donc on voit que ces quatre premières béatitudes s'adressent à des gens qui ont la vie dure, des gens qui subissent la précarité ou qui subissent une précarité causée par leur foi. Jésus le dira à la fin. Hein, heureux serez-vous quand on vous insultera, etc. Pourquoi on vous insultera? Même parce que vous serez mes disciples. Donc, que ce soit une précarité subie ou une précarité causée par la foi, c'est bien à cette catégorie-là que Jésus s'adresse. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il s'engage. Qui d'autre que Jésus peut dire le royaume des cieux est à eux? Il faut avoir l'autorité du royaume des cieux pour pouvoir le dire. Et Jésus là. Qui d'autre peut promettre à quelqu'un d'être consolé? Quand j'ai quelqu'un dans le cadre de. Dans mon ministère, j'accueille pas mal de gens, évidemment. Puis-je, moi, promettre à quelqu'un d'être consolé? Absolument pas. J'aimerais bien pouvoir appuyer sur un bouton ou faire un acte, je ne sais pas quoi, et que la personne soit tout de suite, hop, ça y est, je suis consolé. Mais je ne suis pas le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, peut le faire. Et Jésus promet, s'engage. Tu peux même, quand tu pleures, tu peux même retrouver le sourire alors que tu as les yeux encore mouillés de larmes. Parce que moi, je te dis, tu vas être consolé. Quelle autorité bienfaisante de Jésus. Ils hériteront la terre, c'est pareil, c'est un peu comme. Qui d'autre, un peu comme la première béatitude, le royaume des cieux, qui d'autre que Jésus lui-même, le roi, le souverain, peut promettre la terre? Moi, je peux promettre un café peut-être à quelqu'un, mais Jésus, c'est la terre qu'il promet. Quand même extraordinaire. Alors Jésus s'engage. Jésus s'engage, il nous console, il nous rétablit, il nous répond, il nous soulage. Et cela provoque, dans cette insécurité dans laquelle qui m'étreint, qui m'empêche de réfléchir, la pauvreté, d'être affligé, d'être injustement traité, parfois ça m'empêche de réfléchir. Et là, je peux quand même m'arrêter quand j'écoute ce Jésus qui me dit heureux. Je peux quand même m'arrêter et dire, je suis en sécurité. Ouf, quand même. Le verset 6, et je vous ai dit tout à l'heure, ça pourrait faire partie de la deuxième partie des béatitudes, c'est-à-dire quelque chose qui nous pousse à l'action. Faim et soif de justice, ça peut vouloir dire aussi vouloir la justice, non seulement pour moi, dont on me priverait, mais pour les autres. Et ça veut dire j'ai faim que la justice soit rendue pour tout le monde, pas que pour moi. Donc c'est un verset ou c'est une béatitude qui fait charnière, je vous propose de la voir comme ça, entre cette première partie où Jésus s'adresse à nos cœurs, j'allais presque dire à nos tripes, enfin à nos situations les plus ennuyeuses, les plus terribles. Mais même là, il vient nous chercher et il nous dit « Oui, mais quand même, occupe-toi quand même des autres. Tourne ton attention vers les autres. » Et le faim et soif de justice, je ne sais pas trop ce que Jésus veut dire et c'est très bien. Il peut vouloir dire les deux. Et quand je me bats pour ma propre justice, pour qu'on respecte mon droit, il est bien évident que il est naturel que j'embrigade les autres et que mes combats servent aussi aux autres. Alors, avoir faim et soif de justice, tant pour soi que pour les autres, c'est un effort, c'est un travail, c'est un engagement. Et là, on n'est plus passif comme dans le premier groupe, on en arrive à cracher dans les mains, retrousser les manches et à s'engager. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le heureux de Jésus, quand il dit heureux, ce n'est pas un contentement béat, prétexte à la paresse. C'est une mobilisation. Et c'est comme s'il nous donnait une grande claque dans le dos, dit « Allez, c'est super, vous avez faim et soif de justice, eh ben, vous allez être rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, eh ben, vous allez avoir de la compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, eh ben, vous verrez Dieu. Heureux les artisans de paix, ah ah, vous serez appelés fils de Dieu. » Être compatissant. Suis-je pauvre? Suis-je affligé? Suis-je victime d'injustice? Qu'importe. Je n'oublie pas les autres. Je n'oublie pas les autres qui sont aussi parfois pauvres, affligés, etc. Vous avez déjà remarqué, quand on fait... Moi, je me souviens d'une occasion où nous avions des enfants musiciens quand ils étaient à la maison, ils le sont un peu moins maintenant, mais, et nous allions au conservatoire. Et un professeur, à un moment donné, a proposé que l'audition pluridisciplinaire annuelle, oserais-je dire la grand-messe, du conservatoire, se fasse dans un endroit où il y avait une entrée payante. Il fallait payer, c'était au mois de novembre, il fallait payer en donnant un jouet. Et ces jouets, ensuite, étaient donnés à des associations qui pouvaient ainsi les offrir pour les enfants qu'elles hébergeaient pour Noël. Qui ai-je entendu le plus râler contre ce système? C'est quand même sympa. On peut acheter un jouet, ou on prendra en bon état chez soi aussi, l'apporter, et on peut entrer dans, c'était le musée de l'auto. On peut entrer dans le musée de l'auto, et au passage visiter tout le musée de l'auto à la faveur de l'audition pluridisciplinaire qui se faisait entre les Bugatti, les Peugeot, les... c'était magnifique. Et ben c'était les gens, les bonnes familles, du bien, bien nantis, qui trouvaient anormal de devoir payer un pauvre jouet à 10 euros pour écouter leur cher bambin jouer du violon. Ça m'a choqué. C'est des gens qui n'hésitaient pas à dépenser des cents et des mille pour acheter une voiture capable de traverser le désert du Sahara alors qu'ils allaient acheter le pain au bout de la rue. Mais qui, pour payer leurs 10 euros, pour que d'autres enfants puissent avoir un jouet pour Noël, alors c'est des enfants en établissement, ça veut dire qu'ils sont en dehors de leur famille quand même, hein. Eh bien, ils râlaient. Moi, ça m'a choqué. Il y a des moments... j'ai retenu ma langue. Compliqué. Autre exemple. Nous avions fait le même genre de choses à notre église, une petite ville qui s'appelle Mulhouse, dans le nord. Et nous avions fait une entrée payante aussi pour un concert. Et il fallait cette fois venir payer son entrée avec un vieux vêtement. Vous pouvez très bien arriver, vous enlevez votre pull, vous le mettez, après vous aurez froid, hein, mais bon, vous le mettez dans la caisse qui était destinée, vous avez payé votre entrée. Et là, on a eu l'inverse. On a eu des gens qui disent, je ne peux pas venir au concert, mais est-ce que je peux quand même payer mon entrée ? En apportant mon vieux pull, enfin des vieux vêtements. Les pauvres, et ce n'étaient pas forcément des gens très, très aisés hein, qui nous proposaient ça. Les personnes les plus pauvres ne sont pas les moins généreuses. Retenons bien ça. Et retenons-le pour nous. Retenons que quand j'ai faim et soif de justice, j'ai faim et soif pour moi, mais aussi pour les autres, et que ça va me mobiliser pour être compatissant. Alors après, les purs de cœur, plus littéralement, vous aviez tout à l'heure les pauvres d'esprit, ou pauvres en esprit, plutôt, et là maintenant nous avons les purs en cœur, c'est exactement la même tournure en grec. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens qui ont le cœur pur, on dira plus naturellement en français, c'est une pensée pure de, je pense vu le contexte, on peut l'expliquer un petit peu plus précisément, une pensée pure de duplicité, de manipulation. Pure, ça veut dire qu'elle n'est pas mélangée avec des choses qui seraient pas à leur place, qui seraient pas là, à leur place. Des choses impures, en quelque sorte. Que notre action soit dénuée de duplicité, de manipulation, de recherche de pouvoir, de condescendance, de méchanceté, de mépris. Cette pureté du cœur, elle est placée par Matthieu entre la compassion pardon, et la paix. Elle est très très fortement encadrée par deux notions très fortes. La compassion, certaines traductions ont la miséricorde, faire du bien, vouloir du bien et faire du bien, et la paix, qui est un peu la même chose, grosso modo. Donc la pureté, ça veut dire que quand on fait du bien aux autres, on le fait sans calcul. On le fait par amour pour eux, sans vouloir mériter, sans prétendre mériter une reconnaissance éternelle, une plaque commémorative. Ici, Jean-Marc a donné 10 euros pour le compte. Non. On le fait sans calcul. Aimons les gens comme ça. Cœur pur. Tout simple. On pourrait d'ailleurs dire cœur simple. Parce qu'il y a les cœurs, des expressions parlent de cœur dans la Bible parlent de cœur partagé parfois. C'est-à-dire on a deux côtés. Un peu comme parfois quand on est à l'église, on a un côté. Et puis quand on est au travail, on a un autre côté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, simple, d'un morceau, d'un tenant. Et puis heureux les faiseurs de paix qui a rendu célèbre le chant qu'on Seigneur fait de nous, des artisans de paix ou des ouvriers de paix. Littéralement, ce sont des faiseurs de paix. Soyons de ceux qui donnent du bonheur. Le mot paix est un mot tiroir, hein, très, 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 très vaste, alors je vous propose quelques synonymes. Soyons de ceux qui donnent du bonheur autour d'eux. Soyons de ceux qui génèrent de la tranquillité autour d'eux. Soyons de ceux qui apaisent les tensions autour d'eux. Soyons de ceux, et de celles, pardon, qui procurent du bien-être autour d'eux, autour d'elles. Alors, là, il y a un vrai effort dans ce groupe des béatitudes, dans ce deuxième groupe des béatitudes. Il y a un programme de vie, il y a un défi que Jésus nous lance. Il nous dit « Heureux, vous qui êtes artisans de paix, car vous serez appelés fils de Dieu. » Ça pourrait dire « Ah ben, c'est sympa ce qu'il dit. » Sauf que ça veut dire ça veut dire aux disciples que nous sommes « Hé, votre boulot dans ce monde, c'est d'être artisan de paix. » C'est une forme assez douce que Jésus utilise, mais ne nous laissons pas endormir. Jésus nous donne un ordre, mais il le donne avec un encouragement dedans. C'est que si vous êtes des artisans de paix, chers amis, mes disciples, Jésus dit, vous serez heureux d'être au registre, dans le registre des fils et des filles de Dieu. C'est une position que Jésus donne. Ce sont des titres, ce sont des honneurs. Vous avez remarqué, obtenir miséricorde ou obtenir compassion, c'est une sécurité énorme. Qui d'entre nous, je reprends ma phrase, nous sommes tous, chacun conscients de nos propres vicissitudes, troubles, péchés, oublis, incapacités, ratés, ce genre de choses. N'est-ce pas ? Moi, en tout cas, je suis conscient des vôtres. Non, pardon, je suis conscient des miens. On est souvent conscient de ceux des autres, je rigole. Et il y a d'ailleurs une fable de La Fontaine qui exprime ça très bien. On voit toujours mieux les défauts des autres que les siens. Ceci dit, honnêtement, dans le secret de nos cœurs, nous voyons nos propres défauts. Enfin, j'espère. Et si ce n'est pas le cas, on a du boulot. Mais nous pouvons dire, Dieu a compassion de moi. C'est aussi une sécurité très forte. Et puis il y a le titre fils et fille de Dieu. C'est presque choquant, cette expression. Elle est très forte, disons. Choquante si on considère, si je fais écho à certaines réactions que les Juifs avaient quand Jésus appelait Dieu son Père. Et puis, voir Dieu, c'est quelque chose de totalement impossible. On ne voit pas Dieu. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Et là, tu as le cœur pur, tu verras Dieu. Oh. Donc, il y a une intensité dans cet appel que Jésus lance. C'est pas du bonheur à la guimauve, c'est du bonheur vibrant, c'est du fort, c'est du lourd, comme on dit aujourd'hui. Alors, bon... C'est une vraie mission que Jésus nous donne dans ce monde. Il nous appelle, il nous convoque, je ne sais pas quel mot utiliser, il nous envoie comme des faiseurs de paix, il nous envoie comme des hommes et des femmes authentiques, j'ai choisi ce mot pour exprimer le cœur pur, il nous envoie comme des gens de compassion, et de compassion active, pas compassé, comme on dit parfois, avec quelques mots doucereux, et puis ça s'arrête là. Et ce n'est même pas ça qui nous rendra heureux, d'ailleurs. Ce n'est pas le fait d'être des faiseurs de paix, d'après ce texte. Ce n'est pas le fait d'être des hommes et des femmes authentiques, ce n'est pas non plus le fait d'être des gens de compassion active. C'est ce qui vient après qui nous rendra heureux. C'est en faisant ça, vous marquerez au monde... Vous direz au monde, en étant des faiseurs et des faiseuses de paix, vous direz au monde que vous êtes fils et filles de Dieu. En vous inscrivant, vous vous inscrirez, nous nous inscrirons dans la liste des gens du peuple de Dieu, en étant ouvriers de paix, en étant compatissants, en étant authentiques, en ayant le cœur pur. Nous dirons au monde par cette attitude que la grâce de Dieu existe et qu'elle nous a fait du bien. Et c'est dans cette grâce de Dieu dont nous serons au bénéfice que nous allons trouver la racine de ce heureux, heureuse. C'est pas par les œuvres que nous allons faire, mais c'est par la raison que Dieu nous donne de les faire que nous serons heureux et heureuses. Quand nous envisageons une action, pensons-la de cette manière-là. Je sais que plusieurs d'entre nous vont participer à la collecte de la banque alimentaire à la fin novembre. Eh bien, voilà, heureux les personnes qui exercent la compassion, car ils obtiendront compassion. Prenons les choses comme les actions qui nous sont données de faire, comme des manifestations de la grâce que Dieu nous fait, de nous appeler ses fils et ses filles. Je n'ai pas lu toutes les béatitudes, il y a encore la dernière. Tout le monde, la dernière qui est Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et puis, il y a un genre de commentaire que Jésus fait sur la dernière. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, etc. Je l'ai lu tout à l'heure. Oui. Tout le monde ne réagit pas bien à cette proclamation en acte du royaume de Dieu. La dernière béatitude que je viens de relire est là pour en témoigner. Il ne s'agit pas d'être heureux d'être persécuté. Alors, je pense que là, il s'agirait d'un genre de dolorisme malvenu, dans notre théologie en tout cas. On n'est pas heureux parce qu'on est persécuté. On est heureux parce que dans la persécution, et le fait de la persécution, nous identifie comme membres du peuple de Dieu. Et c'est ça qui nous rend heureux. Nous sommes heureux parce que le rejet du monde nous montre que nous appartenons au peuple de Dieu. Essayons d'y penser quand on nous manque de respect à cause de notre foi, et ça peut arriver. Quand on nous rejette en tant que chrétien, quand on nous fait du mal. Quand nous sommes victimes d'injustice, pensons à ce verset 10 et à ce verset 11 et 12. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et ça, personne ne pourra te l'enlever, mon frère. Personne ne pourra te l'enlever, ma sœur. Retenons cet appel de Jésus. S'il coûte d'être compatissant, s'il coûte d'être authentique, s'il coûte d'être acteur et actrice de paix, qu'importe. C'est nous qui sommes heureux. Car nous sommes fils et filles de Dieu. Car nous sommes en communion avec Dieu. Car nous sommes les objets de la compassion de Dieu. Je vous rappelle que nous avons passé une semaine de prière, je terminerai par là, en parlant d'une église missionnaire. Eh bien, il y a de la mission dans ces béatitudes. Celle du milieu. Avoir faim et soif de justice, si je le rajoute là, celle-ci. Et puis, d'être compatissant, d'être authentique, d'être artisan de paix. C'est une manière d'être missionnaire. Et c'est une manière très belle parce qu'elle commence par ce petit mot qui nous fait plaisir, heureux. Je vous invite à prier. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous rends heureux. Et ce bonheur n'est pas fait pour être gardé dans une boîte hermétique. Il est fait pour être ouvert et partagé. Seigneur, que notre bonheur soit celui d'être actif en tant que ton peuple dans ce monde. Merci pour ta bénédiction sur nous. Merci parce qu'elle est au-delà des circonstances. Nous te louons, Seigneur, de dicter dans nos cœurs, de nous conduire par ton esprit à agir comme, selon ce que nous sommes, selon ton appel, dans nos situations diverses. Nous te louons d'agir comme tes fils et tes filles dans ce monde. Amen.